Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois. Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs, pardon, bienvenue dans cette deuxième partie de Restons Courtois, ce Restons Courtois du jeudi, donc Restons Courtois animé par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles, François Devoyer, éditorialiste, Étienne Darjac, éditorialiste, et nous recevons l'eurodéputé du Rassemblement National, Mathieu Vallet. Monsieur Vallet, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de parler de l'actualité autour de l'actualité judiciaire autour de l'affaire Liana, il s'est passé quelque chose au Parlement européen hier, Mathieu Vallet, puisque ce 17 juin, le Parlement européen a approuvé le nouveau règlement sur les retours qui autorise les États membres à conclure des accords avec des pays non membres de l'Union européenne pour y envoyer des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces centres peuvent servir de plateforme de transit ou de lieu d'accueil en attendant le retour vers le pays d'origine. On a presque l'impression en quelques années qu'on a vu un renversement complet du Parlement européen en matière d'immigration. Mathieu Vallet, alors évidemment, le groupe auquel vous appartenez a voté en ce sens. Quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui ?
Non, mais d'abord, ça bouge hier, aujourd'hui, au Parlement européen. Fabien Keller s'est ridiculisé aujourd'hui en disant qu'il y avait des beuveries politiques, en accusant l'un des groupes ECR, qui est le parti de Giorgia Meloni, de beuveries politiques, parce qu'hier soir, ils ont fêté l'adoption de ce nouveau règlement retour. En réalité, c'est du concret. Ça veut dire que ce règlement prévoit le rétablissement du délit de séjour irrégulier que François Hollande a supprimé en 2012 en France. Il prévoit également de suspendre les recours, c'est-à-dire que les recours soient plus suspensifs lorsqu'on veut expulser un étranger. Il prévoit aussi d'avoir des pays tiers sûrs dans lesquels on peut expulser des gens qui ne sont pas originaires de ces pays, mais qui feront évidemment l'affaire de pouvoir les récupérer, puisqu'on a des difficultés à avoir des laissez-passer consulaires. Bref, concrètement, ça facilite les expulsions et ça va dans le bon sens, puisque le pacte asile et immigration qui rentre en vigueur le 12 juin nous mettait à genoux face à l'immigration notamment irrégulière, puisque vous savez que si chaque pays n'accueille pas son fardeau migratoire, c'est 20 000 euros par migrant. Donc nous, on ne veut pas payer, on veut simplement que les personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national et européen rentrent chez eux. Je rappelle que ça profite aux passeurs, aux trafiquants d'êtres humains qui sont des criminels et que l'extrême gauche n'évoque jamais. Mmh. Voilà, donc oui, c'est une grande victoire et on a fait plus que voter. Fabrice Leggeri, qui est dans notre groupe, qui n'en sait pas contre Frontex, beaucoup œuvré aux côtés des autres groupes politiques de droite et patriotiques pour pouvoir faire adopter ce règlement.
Oui. Alors, on rappelle simplement qu'avant que ce texte soit définitivement adopté et mis en pratique, il faut une approbation finale par le Conseil de l'Union européenne, une révision juridique et linguistique, puis publication au journal officiel de l'UE, et lors de l'entrée en vigueur, donc ce règlement entrera, certaines mesures s'appliqueront immédiatement, tandis que d'autres ne deviendront applicables qu'après une période de 12 mois, et évidemment, ça va se jouer aussi état par état. Donc, pour finalement que cette disposition soit appliquée, il faudrait aussi, Mathieu Vallet, sans caricaturer, que votre camp prenne le pouvoir, accessoirement. Parce qu'on pourrait penser que le Conseil, qu'une France non dirigée par une personne de votre camp puisse bloquer ce dispositif et puisse en référer au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel ou que sais-je.
Écoutez, moi j'ai entendu Benjamin Haddad, le ministre délégué de l'Europe, qui est un macroniste de la première heure, dire que c'était un bon texte. Alors vous savez que ça a été compliqué dans le groupe Renew, qui est le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen.
C'est pas entendu avec Madame Keller, quoi.
Ah bah Madame Keller était contre, mais par contre Madame Loiseau était pour. Voilà, Madame Haguet, l'éphémère candidate macroniste qui a quand même eu le courage d'y aller malgré tous les lâches qui l'entouraient, elle a voté abstention. Bon, ouais, donc c'est compliqué pour eux d'assumer des convictions et en même temps, ça ne marche plus, pas uniquement en termes migratoires, mais singulièrement en termes migratoires. Maintenant, oui, nous, on veut un référendum sur l'immigration. Alors, je vois que M. Retailleau nous copie, c'est très bien. Je vois que d'autres candidats évoquent ce sujet. Oui, si vous voulez, pour dépasser les décisions des différents conseils que vous avez évoqués, il faut que ça soit le peuple qui doit avoir le dernier mot. Vous rappelez-vous qu'on n'a pas eu de référendum dans le pays depuis 2005, le traité de la réforme sur la Constitution européenne qui avait été refusé par les Français. Ça fait 21 ans qu'on attend que le peuple soit consulté. Macron l'avait promis l'année dernière, on n'a jamais vu rien arriver. Bon, enfin, c'est beaucoup de promesses pour beaucoup de paresse, comme d'habitude. Et donc oui, nous, c'est un sujet majeur de proposer aux Français de s'exprimer sur un sujet qui les concerne, sur lequel ils sont intéressés et qui va être encore un plus gros sujet dans les années à venir, quand on voit les changements climatiques, les changements politiques, les difficultés des pays où viennent principalement l'immigration, notamment l'Afrique et les pays de l'Est. Et donc oui, il y a un sujet,
Alors, il y a un sujet effectivement très lié à l'immigration en ce moment en Grande-Bretagne, même si celle-ci ne fait plus partie de l'Union européenne. Vous avez sans doute vu passer cela, Mathieu Vallet, le rapport publié par Rupert Lowe, alors qui, en plus d'être député, est aussi le président du parti Restore Britain. Il a publié un rapport faisant état de 250 000 victimes dans l'affaire des gros, de ce qu'on appelle les grooming gangs au Royaume-Uni, donc des gangs principalement issus de l'immigration pakistanaise. Qui s'en prenait à des jeunes filles généralement blanches et issues de familles vulnérables, en tout cas en état de vulnérabilité. Vous avez suivi cette affaire, Mathieu Vallet, qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Non, est-ce que vous savez qu'au Royaume-Uni, moi je fais partie de la délégation Union européenne au Royaume-Uni, même s'il y a eu le Brexit.
Vous faites bien de le rappeler.
Qui garde des relations entre ces deux pays. Puis je suis du Nord, hein, donc les accords du Touquet qui nous mettent à genoux face à l'immigration irrégulière, je les connais bien effectivement. Mais la réalité, c'est qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de carte d'identité. Moi, quand j'y suis allé et que vous évoquez la traçabilité et l'identification des personnes, il y a une difficulté de les identifier quand vous n'avez pas de carte d'identité et que les Anglais sont majoritairement contre, mais ça tend à basculer parce qu'ils comprennent que c'est dans l'intérêt de la sécurité du pays et de la sécurité de chaque Britannique. Ensuite, vous avez du communautarisme qui est assumé. Chaque quartier a une identité, a une communauté, a une langue, donc ça aussi, le communautarisme, plus l'absence de lutte contre l'immigration régulière par la mise en place des cartes d'identité, c'est un sujet. La troisième chose, c'est que vous pouvez travailler sans papier, alors qu'en France, évidemment, c'est interdit. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils payent l'addition très salée du laxisme sécuritaire, migratoire et politique qu'ils ont vécu en fait depuis près de 40 voire 50 ans. On a eu des gouvernements travaillistes, des gouvernements soi-disant réformistes, mais en réalité, vous obtenez la grande débâcle que vous évoquez. Et notamment, il y a même un rapport qui dit que beaucoup de Britanniques voient leurs revenus baisser, leur train de vie baisser, et que le grand déclassement atteint désormais toutes les classes sociales de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni.
Et c'est ce scénario qu'on ne veut pas voir en Europe. Valentin Gore, du service politique de Valeurs Actuelles, vous avez une question pour Mathieu Vallet.
Oui, bonsoir monsieur le député européen. Une question, en effet, vous l'avez dit sur ces fameux accords du Touquet, qui sont un des grands scandales français, vous avez raison de le rappeler, où la France fait quand même le travail de la police britannique. On a encore du mal à comprendre comment un tel accord a pu être voté. Qu'est-ce que vous préconisez pour le remplacer à terme parce que je sais que dans votre région, qu'on appelle les Hauts-de-France, moi je préfère dire Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est un sujet important.
Oui, d'abord, les Anglais, il faut qu'ils arrêtent de croire qu'en injectant du pognon, ça résout les problèmes. Je rappelle qu'on est à un peu plus de 1 demi-milliard d'euros sur un peu plus de 10 ans qui ont été versés, alors je parle 10 ans, jusqu'en 2030, par le Royaume-Uni pour pouvoir finalement protéger leurs frontières extérieures qu'ils estiment être en démarrage chez nous. Maintenant, on consacre beaucoup de forces mobiles, beaucoup d'équipements. Vous savez que la 16 qui mène vers Calais est devenue Alcatraz. Pareil pour les sorties qui mènent à l'Eurotunnel pour les camions et notamment les transporteurs. Donc oui, c'est compliqué. Moi, je préconise qu'on remplace ces accords du Touquet, qu'on les remplisse par des mesures concrètes qui sont que la Grande-Bretagne doit faire preuve de gages sérieux dans son territoire pour dire que les gens qui n'ont pas de papier ne peuvent pas travailler, qu'il faut des cartes d'identité, qu'il faut une vraie coopération entre les deux pays pour permettre à la France non pas d'être le point fixation de la Grande-Bretagne, mais que la Grande-Bretagne ne soit pas une pompe aspirante de ces migrants qui y voient l'Eldorado, et qu'il y ait une vraie lutte contre les trafiquants d'êtres humains, parce que je ne vois pas beaucoup d'affaires de trafiquants et de passants d'êtres humains résolues par la Grande-Bretagne, les accueillir sur son territoire, les mettre en prison sur son territoire. Nous, on n'a plus de place dans les prisons. Voilà, on a 62 000 places pour 89 000 détenus. Donc là, et on a déjà près de 24% d'étrangers, aujourd'hui 23 nous dit-on, mais c'est toujours presque un quart. Donc la réalité, c'est qu'il faut être concret et il faut que la Grande-Bretagne cesse de croire que parce qu'elle donne de l'argent, elle achète une paix sociale, une paix migratoire, une paix sécuritaire qu'elle doit assumer sur son territoire. Parce que finalement, on se retrouve à être les petits besogneux de la Grande-Bretagne. Et ça ne marche pas. En tout cas, très peu, même si on a moins de migrants aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la jungle qui a été démantelée par Sarkozy.
Ce rapport Lowe, il fait aussi écho en France, puisqu'on est en pleine affaire Liana. Alors en tant qu'ancien commissaire de police, ça vous a sans doute marqué ce débat, puisque derrière, évidemment, alors là où dans le rapport Lowe, il y a les liens entre les agressions sexuelles contre des enfants et l'immigration est établi, dans l'affaire Liana, on est vraiment plus face à un dysfonctionnement total de l'appareil judiciaire, puisque on est allé de révélation en révélation, on apprend que non seulement le principal suspect était connu, et qu'en plus il avait déjà des affaires derrière lui, son père également, enfin on est sur, j'aime pas trop ce terme, mais on est vraiment sur quelque chose de systémique, donc on est à la fois face à une famille de délinquants et une justice qui a décidé que ce n'était pas prioritaire et qui se défend en disant qu'elle croule sous les affaires, alors même que à Auch, par exemple, dans le Gers, là où cette petite fille a été massacrée, eh bien, la procureure passait son temps à poursuivre des agriculteurs pour des tweets. Mathieu Vallet, qu'est-ce que ça révèle finalement de notre faillite, cette affaire, Liana.
D'abord, je crois qu'il y a une grande naïveté face à la pédocriminalité. De parler d'événements récents, mais regardez cet animateur du périscolaire parisien qui est sorti du tribunal judiciaire de Paris en étant relaxé alors que il y a 9 victimes qui ont porté plainte contre lui pour des faits de pédocriminalité. Voilà, bon, on nous dit que c'était pas assez caractérisé malgré les propos, malgré les comportements, malgré les preuves qui ont été amassées durant la procédure. Bon, voilà, la messe est dite. Pareil, souvenez-vous, cet influenceur qui avait, grâce à l'intelligence artificielle, pu se déguiser en petite fille de 14 ans, qui avait aguiché un majeur pour pouvoir le dénoncer et finalement le traquer. Il a été convoqué, placé en garde à vue, 36 heures à l'issue, relâché parce que ça serait qu'un coup de folie, alors que la gamine a 14 ans, même si c'est de l'IA. Donc vous imaginez bien que si la justice estime que c'est pas grave, qu'il y a des excuses, que c'est pas assez caractérisé, alors qu'on a des éléments probants, on n'y arrivera pas. Il faut traquer les pédocriminels jusque chez eux par, évidemment, du logiciel, de l'intelligence artificielle, mais aussi par de l'infiltration des policiers qui aujourd'hui le font, mais pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Qu'on a des véritables prédateurs sexuels dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos écoles, parfois même au sein même des établissements qui reçoivent des jeunes bambins, des boutchous. Et donc oui, le principe de précaution doit s'appliquer. Au premier signalement, c'est suspension. C'est pas ce qu'a fait la mairie de Paris avant les élections municipales. D'ailleurs, je trouve que le peuple parisien a été bien complaisant vis-à-vis de la mairie d'Hidalgo pour reconduire la mairie Grégoire face à ce phénomène qui est essentiel. On peut pas laisser nos gamins des prédateurs.
Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé qu'il attaquerait en justice toute personne laissant sous-entendre que la mairie de Paris embauchait des pédocriminels et qu'elle avait dissimulé ces affaires-là au grand public. Mathieu Vallet, je vous mets juste au courant de cette information. Plus sérieusement,
mais celui qui a comparu au tribunal judiciaire de Paris cette semaine, c'est un animateur du périscolaire parisien. Monsieur Grégoire, il fait s'il a plus de temps, Monsieur Grégoire, à passer à faire des dépôts de plainte pour diffamation ou une infraction qui prend du temps, qui encombre les tribunaux et qui met 20 piges à donner un aboutissement ou pas, qui consacre son énergie à protéger les enfants des Parisiennes et Parisiens des prédateurs sexuels plutôt d'aller attaquer des gens qui dénoncent la pédocriminalité. Parlez du sens des priorités, mais le maire, c'est quoi sa priorité? C'est de se farcir des politiques ou c'est de traquer des traqués sexuels qui peuvent faire du mal à nos enfants et notamment dans les centres périscolaires parisiens?
Mathieu Vallet, dernière question. Lorsqu'on écoute les politiques, ils mettent en cause l'action des magistrats. Lorsqu'on écoute les magistrats, ils mettent en cause justement les décisions politiques. Donc finalement, les deux camps, entre guillemets, les deux corporations se renvoient la balle. Est-ce que c'est vraiment un manque de moyens des magistrats ou est-ce que, pour vous, il y a aussi une responsabilité idéologique dans tout cela ?
Non, mais il y a les deux. D'abord, les politiques ne sont pas une corporation telle qu'ils le décrivent. On est élus par les gens. Nous, les juges, ils sont élus par personne.
C'est vrai que c'est une différence.
J'estime que dans une démocratie, le pouvoir suprême, c'est le peuple. On a un film récent qui vient de sortir sur De Gaulle. C'est une phrase du général De Gaulle. C'était pas le plus, on va pas nous le présenter comme le plus grand fasciste mondial, comme il a pu combattre le fascisme et le vrai nazisme à l'époque. Donc la réalité, pour faire simple, c'est qu'il y a un manque de moyens, mais il y a aussi un problème d'idéologie dans la magistrature. Moi, quand le syndicat de la magistrature nous explique qu'il doit pas avoir de prison et de frontières, ou que le problème, c'est la police avec des violences policières, des contrôles faciès, un racisme systémique, évidemment, on peut pas se consacrer à la lutte contre la pédocriminalité, contre le terrorisme islamique, contre les violences conjugales, si derrière on passe son temps, le Conseil supérieur de la magistrature, à dire que le problème c'est pas les voyous mais c'est la police, que le problème c'est pas les narcotrafiquants mais c'est les policiers, que le problème c'est pas les prédateurs sexuels mais celles et ceux qui les aguicheraient. Donc voyez, c'est un vrai problème logiciel et de moyens, parce qu'il faut un logiciel à jour de 2026, mais aussi d'un logiciel qui fonctionne lorsqu'on en donne les moyens.
Merci beaucoup Mathieu Vallet, eurodéputé du Rassemblement National et ancien commissaire de police, d'avoir été avec nous pour évoquer l'actualité européenne et l'actualité judiciaire française. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous revenons à vous, mais d'abord un petit message de votre radio ainsi qu'un court passage musical.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. We'll be right back.
Restons courtois. Marc Haino.
De retour sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois pour la dernière partie de ce Restons courtois du jeudi, ce Restons courtois de valeurs actuelles. Je suis Marc Haino et je suis en plateau avec Valentin Gore et Étienne Darjac. François Devoyer vient de nous quitter à l'instant, ainsi que Mathieu Vallet, eurodéputé du Rassemblement National. À 19h, nous recevrons le politologue Guillaume Bernard, avec qui nous reviendrons, nous ferons un petit point sur cette campagne présidentielle qui démarre avec beaucoup d'avance. Ça, je sens que ça va être interminable. En attendant, on avait évoqué avec Mathieu Vallet ce fameux rapport Law du nom de son auteur, tout simplement, le député Law et président du parti Restore Britain, Valentin Gore, vous connaissez bien cette personnalité et ce parti politique, c'est un ancien allié de Nigel Farage, en quelque sorte.
Oui, il a soutenu, Rupert Law a soutenu un temps Nigel Farage, qui est maintenant en tête des sondages avec son Reform Party. Si demain il y avait une élection générale en Grande-Bretagne, il est très probable qu'il deviendrait Premier ministre, ce qui paraît lunaire quand on pense que la Grande-Bretagne, jusqu'à il y a encore 2 ans, était un pays absolument où le bipartisme était érigé en système depuis plus de 2 siècles. Et là, ce bipartisme a volé en éclats. Le parti conservateur est tout à fait démonétisé, le parti travailliste va perdre énormément de sièges la prochaine fois, donc c'est quand même une petite révolution dans ce pays. Et donc, à la droite de ce parti de Nigel Farage, qui est déjà assez à droite, effectivement, est né, voici 3 mois, ce Restore Britain, de ce monsieur Rupert Law, qui a un passé, je crois qu'il a dirigé un club de football, d'ailleurs.
Absolument.
Je ne sais plus lequel. Et puis maintenant, il se présente vraiment comme un fermier. Alors, c'est vraiment le gentleman farmer, là, l'anglicisme est permis, qui s'est présenté dans sa ferme pour avoir un long message, comme ça, appelant au redressement de sa patrie. C'était assez intéressant, parce qu'on sentait vraiment un enracinement chez cet homme, une espèce même de sérénité. On sent que c'est pas quelqu'un qui va qui fait ça pour aller dans les médias. On sent que c'est un homme qui a une certaine profondeur avec vraiment des paysages derrière lui, et ça m'avait frappé, et je suis pas étonné que ce parti n'ait très récemment, on en parle déjà beaucoup avec ce rapport notamment,
parce qu'effectivement vous l'avez dit, c'est une personnalité haute en couleur. Étienne Darjac, je vous donne la parole simplement pour préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie que ce rapport n'est pas un rapport parlementaire officiel.
Ah non, il est pas parlementaire.
Absolument, il a été, donc l'initiative est entièrement financée par le public. Plus de 764 000 livres sterling ont été levés auprès de plus de 22 000 contributeurs individuels. Et ce chiffre, pour reprendre les mots de Yann Valéry, le fondateur de Brésinfo, est le premier, je crois, à avoir traduit ce rapport, et qui dit, ce chiffre dit quelque chose d'essentiel, puisque 22 000 Britanniques ont sorti leur portefeuille parce que l'État finalement refusait de faire ce travail. Ce qui donne aussi à ce rapport une grande liberté. On sait que la personne qui a dirigé l'enquête était elle-même une ancienne victime de ces grooming gangs à Rotterdam. Ils avancent quand même le chiffre effarant de 250 000 victimes potentielles. Étienne Darjac, c'est absolument cataclysmique.
Oui, c'est terrifiant en fait. C'est des chiffres qu'on n'arrive même pas à visualiser. Il y a eu, vous vous rappelez peut-être du scandale du réveillon du Nouvel An dans je ne sais plus quelle ville,
à Cologne.
En 2015 ou 2016,
Cologne, je ne sais pas de
bêtises, qui avait aussi eu cette espèce de tendance à infuser très doucement dans l'opinion, où c'était sorti très petit à petit, jusqu'à ce qu'on se rend compte au fur et à mesure des semaines de l'ampleur de la chose. Ça avait énormément marqué l'opinion européenne. Là, il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que moi, ces grooming gangs, comme on les appelle, j'en entends parler depuis des années, en réalité, au Royaume-Uni. Et on découvre un peu aujourd'hui l'ampleur, mais absolument sordide et terrifiante de cette affaire-là, et surtout à quel point les autorités britanniques savaient depuis le début et savaient des choses.
Les autorités, les services sociaux, la police.
Dans leurs détails les plus affreux. Il y a dans ce rapport des récits qui racontent que la police parfois surprenait les violeurs sur les faits et laissait faire. Il y a des procureurs qui décidaient de jeter les dossiers parce qu'il fallait pas alimenter le racisme. Il y a le cas d'un... Alors c'est cruellement illustrateur. Il y a le cas du premier Pakistanais qui a été anobli par la couronne britannique. Donc un peu une espèce d'incarnation de l'immigration qui a réussi, machin. Ce type-là a fait partie d'un gang de violeurs. de jeunes filles britanniques. Donc c'est absolument sordide. Et je crois que il y a de toute façon depuis quelques années une réaction anti-immigration en Angleterre. On en parlait la semaine dernière avec Belfast, qui est en train de surgir un peu brutalement. Alors c'est un sujet qui avait toujours été très absent de la politique britannique.
Il y a toujours un côté très libéral, très pragmatique, qui est pas du tout, qui se refusait justement à prendre ces considérations-là.
Et je crois que cette histoire va être l'accélérateur d'un réveil qui peut être assez violent. Il faut d'ailleurs du coup, et la trajectoire de Rupert Lowe est fascinante de ce point de vue-là. Réforme, le parti de Nigel Farage, n'a jamais été un parti violemment anti-immigration. Encore moins un parti raciste. Nigel Farage a tenu et tient encore des positions antiracistes. Et c'est précisément pour ça que Rupert Lowe a quitté Réforme, parce qu'il ne supportait pas ce qu'il qualifiait de mollesse. Il faut voir aujourd'hui les publications, les tweets que font Rupert Lowe ou Restore Britain. C'est des phrases qu'on peut même pas imaginer dans la bouche d'Éric Zemmour. En France, je pense à un tweet où Rupert Lowe dit quelque chose comme « Ce ne sont pas des dizaines de milliers qui doivent partir, mais des millions, point. » Ou un autre tweet où il dit « Vous pouvez nous qualifier de racistes ou de fascistes, nous nous en fichons. » Il dit vraiment ça. C'est plus, si vous voulez, on est plus en France, on est encore au stade où on se débat un peu. Alors, de moins en moins, c'est vrai, mais on essaie de justifier. Là, il dit « I don't care, je m'en fiche. » Je m'en fiche, traitez-moi ce que vous voulez, nous allons en déporter des millions. Quand je dis déporter, j'emploie le mot évidemment anglais.
Au sens anglais du terme.
Anglais, qui veut dire rémigrer. Donc c'est assez fascinant, et j'ai l'impression que l'Angleterre, un peu, que j'allais dire, va brutalement rattraper ce retard qu'elle avait pris sur cette thématique-là, et qu'on n'est pas prêt d'être arrivé au bout de cette histoire.
Mais c'est vrai, quand on lit les mots de Rupert Lowe après la sortie de ce rapport, Je vais vous le citer. Les politiciens conservateurs, travaillistes et de réforme sont tous directement responsables de cette vaste importation. Il parle évidemment des millions d'immigrants qui sont rentrés en Grande-Bretagne. Personnellement, je ne pardonnerai jamais à quiconque en est responsable. Les filles blanches vulnérables de la classe ouvrière ont été traitées comme un morceau de viande, violées, abusées, torturées, assassinées. C'était une attaque raciale et c'est une attaque coordonnée partout au Royaume-Uni. Ils ont ciblé ces filles parce qu'elles étaient vulnérables, elles étaient jeunes, elles étaient blanches. Tant que la classe politique n'acceptera pas ce fait, rien ne changera jamais. Ces hommes ne vivent pas selon les mêmes règles que nous. C'est au-delà du maléfique. Et c'est un réseau coordonné de crimes organisés à travers tout le pays. C'est direct. Le style de Rupert Lowe est totalement direct.
J'en ai encore un sous les yeux qui est assez incroyable. Où il dit avec l'approbation du peuple britannique, un gouvernement Restore Britain, exécutera les sauvages du tiers-monde meurtriers.
Voilà, au moins le programme est clair, au moins il n'y a pas de... Voilà.
C'est assez fascinant, cette libération de la parole, qui en France, ça fait 50 ans qu'on évolue très doucement sur ce sujet.
On
passe de rien à tout.
Non, mais il y a une chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une exception britannique, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas toujours bien compte en France, mais nous, on est des très petits joueurs par rapport à l'immigration, parce qu'au Royaume-Uni, les gouvernements, et en grande partie d'ailleurs le parti conservateur, même sous Thatcher et avec Johnson récemment, a vraiment utilisé, s'est drogué vraiment à l'immigration, il n'y a pas d'autre terme, en faisant venir pour vraiment faire peser à la baisse sur les salaires. Il y a une part c'est assez maléfique, en effet, la politique migratoire au Royaume-Uni, il y a un côté presque pervers. On a fait venir vraiment des vagues. C'est un ordre de, en France, 1, c'est 4 au Royaume-Uni. C'est très différent.
On a esclavagisé la classe ouvrière britannique.
Totalement. Et on l'a fait disparaître avec une violence qu'on n'imagine pas en France, malgré tout.
Et qui explique, du coup, on se posait la question la semaine dernière de qu'est-ce qui expliquait ces manifestations très violentes qu'on voyait, qu'on n'imaginait pas arriver en France. C'est peut-être ça qui explique ces réactions violentes. Il y a peut-être un sentiment d'urgence et de menace plus immédiat encore en Royaume-Uni qu'ici en France.
Mais alors en France, on a quand même ce sujet, alors c'est une des conséquences de ce rapport aussi sur les grooming gangs, c'est que des voix commencent à s'élever en disant qu'au fond, ce qui se passait au niveau de l'aide sociale à l'enfance, où on a des adolescentes de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui sont ciblées, enlevées en fait à l'ASE par des proxénètes qui sont livrées à la prostitution dans des caves et dans des hôtels glauques, c'est aussi une réalité. Et il y a au fond aussi une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Alors je doute, quoique je n'ai rien pour le prouver, qu'on soit sur des chiffres équivalents à ceux qu'avance Rupert Lowe en Grande-Bretagne, mais qu'on sait qu'il y a potentiellement des milliers de victimes, qu'il y a déjà des milliers de victimes à recenser, Étienne Darjac.
Oui, très probablement. De toute façon, on le voit avec l'affaire Liana, avec les affaires Epstein, avec ce genre de choses. On sent que la France est quand même, depuis quelques années, en train de découvrir, de lever le voile, en tout cas, sur ces affaires pédocriminelles et sur un certain nombre de pratiques qui ont existé pendant des années et qui, timidement, commencent un peu à reculer. Sans doute que les jeunes filles de l'ASE, sans doute, dans quelques années, découvrira-t-on des scandales similaires. Alors, est-ce que ce sera autant lié à l'immigration ou pas, je peux pas vous dire, mais... Il y a de toute évidence eu un non-dit très large en France sur ces questions. Je ne vois en tout cas rien qui justifie que la France y ait échappé plus que les autres.
Valentin Gore.
Oui, bien sûr, avec là, pour le coup, une spécificité un peu française, qui est cette espèce de rictus un peu entendu dans les élites ou dans une partie des élites. On citait la semaine dernière les fameux extraits d'Apostrophe avec Matzneff ou Cobendit. C'est vrai qu'il y a eu quand même en France, notamment à Paris, hein, il faut se souvenir dans les années 70-80, quand un jeune ou une jeune femme ou un jeune homme montait à Paris, on lui disait fais attention, la province se méfiait de Paris. Elle savait qu'il s'y passait des choses bizarres.
Il y avait trop de monde pour que ce soit contre là, mais on se perdait dans Paris au sens littéral.
Il y a une espèce de perversion qui est assez germano-pratine et française et qui est sur, à laquelle on est en train effectivement, on commence à la regarder en face. Oui.
Et on va se partir du côté de la Vendée pour retrouver le politologue Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, c'est la fin de l'année universitaire qui approche, les vacances aussi du coup.
Oui, mais pas encore, parce que nous sommes dans les rattrapages, on a les soutenances de mémoire de master, donc il y a encore beaucoup de travail. Et je vais pouvoir consacrer mes vacances à la rédaction d'articles en retard.
On va faire un point sur l'élection présidentielle avec vous, Guillaume Bernard. On va commencer, on va prendre une trajectoire sinistrogyre. On va commencer par la gauche, Guillaume Bernard, puisque l'élève Glucksmann est en train d'essayer de concurrencer le maître Mélenchon. On va le rappeler à nos auditeurs, Jean-Luc Mélenchon qui fait une démonstration de force à Saint-Denis, au pied de la Basilique des Rois, qui rassemble à peu près 20 000 personnes, et Raphaël Glucksmann qui répond le week-end d'après avec en remplissant une salle de 4 000 personnes. Alors, il n'y a pas eu autant de monde, mais les observateurs ont considéré que l'opération était réussie, c'est-à-dire que Raphaël Glucksmann réussit quand même, malgré énormément de facteurs, et on va y revenir ensemble, à mobiliser. Guillaume Bernard, tout le monde parle de la droite, tout le monde se dit que l'élection présidentielle se jouera à droite, mais au fond, est-ce qu'elle se jouera pas un petit peu à gauche? Est-ce qu'elle se joue pas ou commence déjà pas à jouer entre cette opposition, entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté, alors les sociaux-démocrates de l'autre, pour l'instant c'est Raphaël Glucksmann, mais ça pourrait être aussi François Hollande ou quelqu'un d'autre. Est-ce que la présidentielle ne commence pas à se jouer maintenant pour cette force-là?
Alors, il est certain que tant que les résultats ne sont pas tombés, une élection n'est jamais jouée d'avance. Et on le sait bien, lorsqu'il y a des favoris très longtemps en avance, bien, il arrive bien souvent que ceux-ci finalement perdent. Donc vous avez raison de dire qu'effectivement, il ne faut pas considérer que le résultat de l'élection est déjà acquis. Ça, c'est absolument certain. Ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est d'une part le fait qu'il y a énormément de candidats potentiels. Il y en aura sans doute moins à la fin. Mais enfin, il y en a quand même beaucoup, et que la campagne commence, vous le relevez, et vous avez raison, très tôt. Parce que, évidemment, à partir du mois de septembre, plus encore à partir du mois de janvier-février, qui précède évidemment le mois de mai, là, on est vraiment dans la campagne. Mais une campagne qui commence dès le printemps précédent, c'est-à-dire quasiment un an à l'avance, une campagne qui commence, je dirais, par des meetings, un an à l'avance, ça, c'est quand même relativement peu courant. Je dirais, il y a presque le cas antinomique qui est celui de Charles de Gaulle, qui en 1965 n'a fait campagne qu'au second tour, avant il ne fait pas du tout campagne. Il y a un écran noir à la télévision lorsqu'il y a son temps de parole parce qu'il ne fait pas campagne. Mmh. Là, on est quand même très, très en avance. Ça me paraît être le résultat de quoi ? Ben, tout simplement de l'éparpillement de l'opinion publique.
Ouais.
C'est-à-dire que il n'y a pas de candidat naturel pour chacun des camps politiques concurrents, disons, du Rassemblement national. Parce que là, pour le coup, encore qu'on ne sait toujours pas si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui sera candidat, pour le coup, là, dans ce camp-là, le candidat est quasiment désigné. Mmh. Mais en revanche, pour les autres blocs politiques, il y a véritablement une discussion sur qui va véritablement prendre, pardon, sur Radio Courtoisie, je vais utiliser un terme anglais, le leadership, mmh. prendre l'ascendant, voilà, c'est plus français, prendre l'ascendant sur les autres.
Sur les autres, ouais. Alors, ceci dit, c'est vrai que quand on voit ce qui est en train de se jouer, là, par exemple, même pour revenir entre Glucksmann et Mélenchon, on voit mal en réalité qui, à gauche, pourrait aller concurrencer Mélenchon et qui pourrait aller lui contester. Allez, je répète le mot anglais, son leadership sur la gauche.
Oui, mais d'un autre côté, Mélenchon est très marqué à gauche. Mmh. Et je sais bien, l'électorat flottant, celui qui hésite à aller voter ou non, celui qui hésite sur le candidat sur lequel il va se positionner, cet électorat-là, il est plutôt il est plutôt vers le centre. Mmh. Et François Mitterrand avait fait l'analyse dans les années 70, lorsqu'il avait pris le pouvoir au Parti Socialiste au Congrès d'Épinay. Il avait bien compris que, certes, au début des années 70, le Parti communiste était plus puissant que lui, mais que, en revanche, pour pouvoir gagner au second tour, il fallait un candidat de gauche qui soit plus marqué au centre,
ouais.
Moins radical. Et donc, peut-être que Mélenchon est aujourd'hui, disons, plus populaire, plus visible, plus, comment dire, avec un discours plus net que les autres. Il n'empêche que tous les autres candidats potentiels de la gauche disent que, eh bien, les électeurs peuvent très bien renacler, considérer que Mélenchon perdrait au second tour et que donc, par conséquent, il vaudrait mieux un candidat plus centriste et moins radical. Donc, je pense que les choses soient jouées. Il est très clair qu'aujourd'hui, la social-démocratie, alors est-ce qu'elle sera incarnée par Hollande, Glucksmann ou, d'une certaine manière, par un candidat macronien du type Édouard Philippe ? Mmh. Enfin, la social-démocratie, elle espère effectivement empêcher Mélenchon d'être au second tour.
Je vais faire intervenir mes camarades qui sont évidemment au plateau. Mes dernières questions, Guillaume Bernard, est-ce que donc vous avez parlé justement du positionnement très à gauche de Jean-Luc Mélenchon. J'ai presque envie de dire que le 7 octobre est aussi passé par là. Est-ce que il y a un plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon? Alors on sait que la stratégie du vote communautaire, elle marche plutôt bien, mais elle n'est jamais garantie parce qu'elle nécessite vraiment une mobilisation très forte le jour du vote. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, là, à Saint-Denis, paradoxalement, on a vu 20 000 personnes, mais tout comme on avait vu des dizaines de milliers de personnes au Trocadéro pour le meeting d'Éric Zemmour, comme si finalement, il y a du monde, mais il n'y a que ça, entre guillemets.
Oui, c'est évidemment le risque, c'est-à-dire que les partisans, les militants soient extrêmement motivés et donc présents, très visibles sur les réseaux sociaux, très visibles dans la rue, mais que pour autant il n'y ait pas une adéquation avec l'opinion publique. La force tout de même de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il réussit à coaguler ce qu'il reste des différentes gauches. Hein. Vous savez que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a quand même un affaiblissement global de la gauche sur le long terme, et ça, je le maintiens. Mais en revanche, Mélenchon a réussi à agglomérer les différentes gauches. Alors, si on veut les inventorier, bah, il y a la gauche autoritaire, hein, jacobine, bon, très bien, révolutionnaire, robespierriste, pro-Clémenceau. Il y a la gauche libérale, avec le côté wokiste, écologiste, etc. Il y a la gauche anarchiste, avec les Antifa, les Black Blocs, etc., qui sèment le désordre. Et puis, il y a un peu de gauche collectiviste, même si elle est décrédibilisée par la chute de l'Union soviétique, il reste quand même un petit aspect de cette gauche-là. Et donc, Mélenchon, il réussit à coaguler ces différentes gauches, et c'est ça sa grande force, incontestablement. Pour autant, voilà, on verra bien si c'est... parce que pour le reste, pardon, c'est ce que j'oubliais de dire, pour le reste, ce qui est à gauche, eh bien, est social-démocrate, et donc, pour l'essentiel, en fait, libéral. Libéral, keynésienne d'un point de vue économique et libérale du point de vue des mœurs.
Et cela face à des électeurs qui ont changé de bord et une gauche qui a changé de peuple en quelque sorte. Étienne Darjac, vous avez une question, une remarque à faire à Guillaume Bernard?
Oui, une question. Alors, toujours un plaisir de vous avoir, cher professeur. Je pense que l'idée que je me fais de ce début de campagne de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on interprète assez mal. J'entends beaucoup dire qu'il se lance trop tôt, qu'il va trop vite, qu'il crame trop de cartouches. Trop.
Ne vous parliez pas pour nous en disant ça.
Non, bien sûr que non, Marc. voilà, donc il s'est lancé trop tôt et trop vite. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il séquence pour l'instant plutôt très bien son histoire. Que pour l'instant, en fait, Jean-Luc Mélenchon, il ne mène pas une campagne présidentielle. Il mène une campagne pour gagner à gauche, pour définitivement calmer la concurrence, remporter le match et arriver en septembre en étant le seul poids lourd à gauche et s'être déjà débarrassé quelque part, avoir déjà plié le match de la gauche. Est-ce que c'est vous paraît cohérent avec ce qui est son parcours jusque-là ?
Bah, écoutez, en tout cas, il a compris une chose que parfois certains oublient, je pense par exemple à Lionel Jospin en 2002, c'est que pour accéder au deuxième tour, il faut d'abord faire une campagne de premier tour. Et que donc par conséquent, il faut d'abord rassembler son camp et éviter, je dirais, d'humilier ou de démobiliser les gens qui, a priori, sont susceptibles de voter pour vous. Donc lui, il a très bien compris qu'effectivement, il faut d'abord faire une campagne dans son propre camp, agglomérer les différentes strates électorales pour ensuite, effectivement, s'engager dans une campagne tout autre lorsque, eh bien, il aura accédé au deuxième tour. Donc non, moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est une campagne de premier tour qu'il a déjà lancée pour être dominant dans son camp. Après, encore une fois, son handicap, c'est celui du Parti communiste de 45 à 75, c'est que, eh bien, il est dominant peut-être dans un camp politique, mais il n'est pas en capacité de l'emporter au deuxième tour parce qu'il a un positionnement qui est trop excentré. Voilà.
Valentin Gore.
Une question, monsieur, sur ce qu'on pourrait appeler l'espace central. Est-ce que vous disiez un peu, notamment, de la candidature d'Édouard Philippe et de la tentation qui pourrait être celle des électeurs de la gauche, disons modérée, de se reporter sur lui dès le premier tour? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et est-ce que vous pensez, justement, que cette gauche modérée, social-démocrate, elle existe encore et qu'elle pèse, disons, par exemple, plus de 10% des voix? Est-ce qu'elle est encore significative en France?
Elle existe encore. Doctrinalement parlant, elle existe. La haute fonction publique, en fait, elle est quand même essentiellement de cette tendance-là, hein. Incontestablement. L'européisme, le keynésianisme sont quand même les deux grandes mamelles, je dirais, de la technostructure. Donc oui, elle existe encore. Après, électoralement parlant, il est clair qu'elle existe surtout dans le cadre d'élections au suffrage proportionnel. Le bon score de Raphaël Glucksmann, il a été fait aux européennes, tandis que le Parti socialiste a quand même eu de très grandes difficultés lors des élections municipales. Moi, je pense sincèrement que aussi bien le Parti socialiste ou Place Publique avec son faux-nez Place Publique ou les Républicains ne sont que des candidats ou des forces politiques secondaires aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et même si il y a, parce qu'on aurait pu penser que l'impopularité de Macron ferait revenir sur le devant de la scène les anciens partis politiques qui ont dominé aussi bien par l'alternance que par la cohabitation la Ve République des années 70 jusqu'aux années 2000. Le problème, c'est qu'en fait, on confond l'impopularité de Macron avec la réalité de sociologique et idéologique de l'électorat. C'est pas parce que Macron est impopulaire que le bloc central, la grande coalition des modérés a disparu. Et donc, bien sûr, il n'y a pas le même engouement qu'en 2017, puisque là, il y avait quelque chose de nouveau, l'institutionnalisation de la cohabitation, l'institutionnalisation de la grande coalition. Il n'y a pas le même engouement, mais ça n'empêche que cet espace politique-là, il existe toujours. J'ai donc tendance à penser, mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, j'ai quand même donc tendance à penser que, à moins qu'on ait une personnalité particulièrement, je dirais, enthousiasmante, c'est-à-dire pas Glucksmann ou François Hollande, les cet électorat-là aura vraisemblablement...
Il reste Bernard Cazeneuve, quand même,
ah oui.
Ou Karim Bouamran.
Exactement, vous avez raison, faites donc de
ou Bali Bakayoko, d'ailleurs.
Voilà, eh bien, on peut penser effectivement que... on peut penser effectivement quand même que cet électorat-là aura tendance à se reporter sur un candidat centriste. Voilà.
Après, est-ce qu'on peut considérer, Guillaume Bernard, qu'on voit donc la campagne qui est en train de faire Mélenchon, la créolisation, la Nouvelle France, etc. On voit se dessiner une campagne bon, qui déjà, je pense, va être d'une violence politique jamais atteinte, qui va surtout être en réalité extrêmement identitaire. Parce que ce qui est en train de se mettre en place, et c'est aussi pour ça que le Bloc central, à mon sens, ne décolle pas, mais je pense qu'on va être d'accord, c'est parce qu'ils sont écrasés en réalité face à une... C'est plus un clivage gauche-droite, mais c'est un clivage ultra-identitaire qui est en train d'advenir entre... Pas forcément eux qui vont les incarner nécessairement, mais en tout cas représentés par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, et où on se retrouve finalement avec un bloc central qui va être incapable de trancher sur ces questions-là, incapable de se positionner, ou en tout cas le jour où il sera forcé à le faire, eh bien en réalité disparaîtra. Est-ce que c'est pas ça aussi qui revient? Est-ce que la fin du macronisme, c'est pas justement le retour du clivage gauche-droite que Macron avait essayé d'enfermer au sein de sa propre famille? Question alors, extrêmement moi, longue. Vous avez, il nous reste un quart d'heure en plus, hein, donc.
Ah bah là, si vous me donnez la lettre,
non, quand même pas. Bon, ça mérite un cours magistral de 2 heures.
Oh là oui.
Non. Vous allez évidemment vous apporter de l'eau à mon moulin. Moi, je prétends effectivement que le clivage droite-gauche, il n'a pas disparu, tout simplement parce que c'est un instrument d'analyse du réel, que les critères du clivage sont susceptibles de varier en fonction du temps, et que au 19e siècle, c'était quel était l'organe politique qui allait dominer, plutôt l'exécutif ou le parlement. Au 20e, ça a été la question du rôle de l'État, l'extension, je dirais, ou non, de son domaine d'intervention dans les questions économiques et sociales. Et puis, je pense, pour ma part, et c'est ce que j'ai défendu dans l'ouvrage sur le mouvement d'Extrogir publié il y a une dizaine d'années, eh bien que désormais, le critère du clivage, c'est la question de la sociabilité. Cette sociabilité, c'est la question de quelle est la nature des corps sociaux, que ce soit l'Europe, la nation avec la question de l'immigration, la famille avec la question des mœurs et du mariage, ou l'entreprise avec la question de, je dirais, de la cohésion du corps social. Est-ce que tous ces corps sociaux sont s'inscrivent dans un ordre naturel des choses, ou est-ce que ce sont des constructions artificielles? Il est clair qu'évidemment la gauche défend l'idée que c'est une construction artificielle, et que normalement la droite devrait comprendre que c'est un ordre naturel des choses, et que si ça s'applique à la nation, par exemple sur la question de l'identité, bah ça s'applique aussi sur la question de la famille et des mœurs, et donc sur la question du mariage. De la droite. Mais attendez, je réponds quand même à votre question. Oui, je pense que Mélenchon est aux manettes, et là de manière extrêmement intelligente. Il veut imposer effectivement le débat sur l'identité, le grand remplacement que lui assume, la créolisation, la Nouvelle France. Et n'oubliez quand même pas qu'il a dit, alors est-ce que c'est simplement de l'esbrouf, ou est-ce que c'est vraiment une réalité? Il a quand même dit que le règlement politique se fera, in fine, soit dans les urnes, soit dans la rue. Il l'a quand même explicitement dit. Donc oui, le débat risque d'être extrêmement fort, extrêmement rude, et il faut dans ce cas-là des débatteurs ayant une colonne vertébrale doctrinale pour pouvoir lutter dans un tel débat.
Une transition magnifique. Étienne Darjac.
Je partage tout à fait ce que vous avez dit, évidemment, ça vous surprendra, c'est vous qui m'avez formé après tout, Guillaume Bernard.
N'en faites pas trop, Étienne.
Oui, mais c'est vrai. Vous parliez, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez, sur le fait que les anciens partis institutionnels, donc les Républicains et le Parti Socialiste, n'ont pas réussi à ressurgir des ruines qu'avait laissé Emmanuel Macron en 2017. Est-ce qu'on peut... et ça va nous permettre d'arriver progressivement à droite dans notre discussion, est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse que Emmanuel Macron, ayant détruit le bloc de droite et le bloc de gauche pour arriver au pouvoir, ces blocs de gauche ont en fait ressurgi sous une autre forme, qui s'appelleront le Rassemblement National et la France Insoumise. Et finalement, c'est une reconstitution sous une forme plus radicale, plus identitaire, moderne,
mais
en fait,
à condition que ces deux camps politiques acceptent cette équation et cet état de fait. Et c'est peut-être la question au niveau du
oui,
RN.
Oui, mais en fait, qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, je veux dire, que Marine Le Pen continue à dire qu'elle n'est pas de droite, qu'après tout, on s'en fout. Je veux dire, si le programme du RN est de droite, s'il est porté par des gens qui sont de droite, bon, c'est une question d'étiquette, après tout, quel est le problème? Donc voilà, c'est ma question.
Oui, oui. Alors, la seule chose, c'est que pour l'instant, on est quand même avec une tripartition. On a des camps politiques, peut-être plus que des blocs d'ailleurs, on a des camps politiques qui sont plus ou moins friables et sur des critères qui sont différents. C'est-à-dire que le bloc de gauche ou le camp de gauche, le clan Mélenchon, disons, il est friable parce qu'en fait, il est une addition de différents segments électoraux et de diverses sensibilités. Hein, entre un collectiviste et un wokiste, on n'est pas forcément exactement quand même sur la même ligne. Pour autant, Mélenchon réussit à les réunir. Il est friable de ce point de vue-là. Le Rassemblement National, ou disons le camp national populiste, il est friable pour d'autres raisons. C'est que il y a, à son avantage, incontestablement, un vote utile dont il a bénéficié, dont il bénéficie maintenant, alors que pendant des années, dans les années 90 et 2000, il ne cessait de demander aux électeurs justement de voter pour leurs idées, de ne pas voter utile pour la droite modérée. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui bénéficie de cela. Le problème, c'est que le vote utile, ça peut marcher, mais comme ça peut ne pas marcher. Parce que ça veut dire que c'est aussi un vote par défaut. C'est aussi un vote qui n'est pas entièrement un vote, c'est un vote de proximité, mais c'est un vote qui n'est pas véritablement de confiance. Voilà. Et de ce point de vue-là, ce vote est friable. Et puis, il y a le troisième bloc, le bloc central. Alors lui, il a une très grande cohésion, sociologique. Le problème, c'est qu'effectivement, il est pris en étau et que donc, par conséquent, il est un peu, susceptible d'être grignoté de chaque côté. Et si, bien sûr, il y a un second tour Mélenchon, Marine Le Pen ou Bardella, il est clair qu'ils vont se retrouver dans une position relativement compliquée, psychologiquement parlant. Parce que jusqu'à présent, on a quand même toujours eu le cordon sanitaire vis-à-vis du RN et que là... peut-être que la chose sera inversée. Tout ça pour dire que oui, le camp national populiste est l'une des deux forces politiques de la recomposition selon le clivage droite-gauche, mais qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui qui sera l'autre force.
Ouais.
Alors vous allez me dire que ça fait 5 minutes que je réponds, mais c'est ça qui est important.
C'est le message.
On ne sait pas qui sera l'autre force. Est-ce que une fois que Mélenchon quitte la vie politique, est-ce que ce camp politique-là garde sa cohésion ou est-ce qu'il implose?
Ou est-ce qu'il ne lui survit pas?
Moi, je pense qu'il implose. Et par conséquent, je pense que l'élection de 2027 n'est qu'une étape. Il est le plus vraisemblable, c'est que ce qui va être la gauche de demain, ce sera le libéralisme et non pas le mélenchonisme. Ouais. Voilà.
Valentin Gore, vous avez une question, une remarque pour Guillaume Bernard?
Oui, une question et une remarque, si je puis dire, parce que je crois qu'on oublie parfois, pourtant on le sait tous, hein, on oublie qu'après la présidentielle, il y aura les législatives, parce qu'à moins que le président élu soit tout à fait fou, il va évidemment dissoudre, il va pas poursuivre et commencer son mandat avec l'Assemblée actuelle. Est-ce que tout de même, le plus probable, quel que soit d'ailleurs le président élu, hein, que ça soit Édouard Philippe, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, peu importe, est-ce que le plus probable, c'est quand même qu'on ait une France absolument ingouvernable un mois après l'élection du nouveau président?
C'est très possible. Cela étant dit, vous remarquerez quand même que lorsqu'il n'y a pas de véritable majorité, lorsqu'il n'y a pas de phénomène majoritaire, c'est lorsque les législatives interviennent longtemps, ou en tout cas plusieurs mois après la présidentielle. À chaque fois que des législatives interviennent après une présidentielle, il y a quand même une démobilisation de ceux qui ont perdu. et une surmobilisation de ceux qui ont gagné. Et donc, normalement, il devrait y avoir, surtout avec le scrutin majoritaire qui, je dirais, amplifie la victoire de celui qui gagne, il devrait normalement y avoir eh bien, une majorité pour celui qui aura gagné. Mais il est certain qu'on s'aperçoit que l'étendue de cette majorité juste après une présidentielle est de plus en plus restreinte. En 2012, Hollande a failli ne pas avoir de majorité.
Oui.
En 2017, il y en a eu une, mais en 2022, elle était extrêmement courte. Mmh. Et il n'y en a pas en 2024.
Elle était relative.
Elle était relative. Mmh. Donc voilà, encore une fois, sans être capable d'avoir la prescience des événements, j'aurais tendance à vous dire, a priori, il devrait y avoir une majorité, mais ça n'est pas certain, surtout, évidemment, si le gagnant est, je dirais, issu d'une force politique radicale d'extrême droite ou d'extrême gauche, évidemment.
Évidemment, les regards sont tournés vers le 7 juillet, date à laquelle nous saurons si ce sera, s'il s'agira de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen qui sera sur la ligne de départ pour le Rassemblement National. Leur tandem a beaucoup été mis en avant, on parlait de complémentarité, on parlait d'une ligne commune, on commence à avoir des petits frittats, de la petite friture sur la ligne Guillaume Bernard, on sait que le sujet des retraites a été fait débat au sein du Rassemblement National, et on a presque envie de dire ils se sont mis dedans tout seuls, parce que personne ne leur avait posé la question. Se pose toujours cette question, Guillaume Bernard, est-ce qu'il y a deux Rassemblements National au sein du parti à la flamme ?
Non, mais tant qu'ils n'ont pas gagné une élection majeure, et qu'ils ne sont pas confrontés au pouvoir, la cohésion restera. Hein, et en règle générale, ceux qui sont contestataires, eh bien, sont finalement évincés. Et on sait que le RN a connu des purges successives. Donc non, je pense que pour l'instant, ça ne se manifestera pas, sauf si vraiment certains voulaient à tout prix éviter que Bardella ne gagne la présidentielle, enfin ne soit candidat puis ne gagne la présidentielle, et ne participe à, je dirais, essayer de fomenter une candidature alternative. Ce qui n'est pas inenvisageable, eu égard effectivement à l'âge de Bardella, parce que si jamais il était élu, évidemment, ça voudrait dire que ça fermerait des perspectives de carrière à tout un tas de gens, parce qu'il est effectivement très jeune et qu'a priori, il devrait avoir une vie politique encore très longue. C'est le cas Chaban-Delmas en 1974, oui. Voilà, évidemment.
Giscard qui était très jeune aussi, d'ailleurs.
Absolument, sauf que Giscard a été soutenu par les Chirakiens, parce que les Chirakiens voulaient liquider Chaban-Delmas.
Absolument,
voilà. Oui. Hélas.
Et voilà. Hélas.
Je pense que oui, il y a évidemment des courants au sein du RN. Pour l'instant, ils ne se révéleront pas. Ils se révéleront lorsqu'ils seront au pouvoir. Lorsqu'ensuite, ils quitteront le pouvoir, parce qu'inéluctablement, ils seront à un moment donné remplacés au pouvoir, et que là, effectivement, l'affrontement se révélera. Les divergences se révéleront au grand jour. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas tellement la possibilité de se disputer, dans la mesure où il faut quand même beaucoup de candidats aux législatives, des assistants parlementaires. Il faut, lorsque vous avez l'Élysée et Matignon, il faut nommer un certain nombre de postes civils et militaires dont le nombre est relativement important. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se permettre de se disputer avec trop de monde. Ouais. En revanche, il y a une chose importante sur laquelle je voudrais juste dire en quelques secondes, c'est que, eu égard effectivement à ce danger, la question était vraiment très importante sur les législatives, eu égard au fait qu'il y a peut-être le danger de ne pas avoir de majorité, on peut peut-être penser que l'arrivée du RN au pouvoir conduira ce parti à faire peut-être encore plus de concessions, entre guillemets, au système, plutôt que de déplacer la fenêtre d'Overton encore plus vers la droite.
Ouais.
Parce qu'ils vont se dire que, dans le fond, eh bien, ils ont besoin de trouver des ralliés. Et eh bien, ces ralliés, ils les trouveront plutôt vers le centre que dans les, je dirais, critiques qui sont plus à droite qu'eux ou qu'ils ont eux-mêmes déjà purgés.
Ça aura au moins le mérite d'en finir avec le théâtre antifasciste, Guillaume Bernard. Parce qu'on a fait...
Vraiment du théâtre, hein.
Oui, mais voilà. Du coup, il reste moins d'une minute, Guillaume Bernard. Et moi, c'est un petit peu là, c'est un peu le débat. De toute façon, c'est puisque tout le monde parle déjà d'un second tour Bardella Mélenchon ou Marine Le Pen Mélenchon. En tout cas, RN et LFI. Le débat, c'est de se dire justement, vous avez parlé de barrage républicain, mais est-ce que Gabriel Attal appellera à voter Jean-Luc Mélenchon contre le Rassemblement National? Bruno Retailleau, on est à peu près sûr que non. Édouard Philippe, c'est encore un petit peu compliqué. Est-ce que, justement, la question, en fait, c'est qu'est-ce que cet électorat va faire? Est-ce que ils ont réellement peur du RN ou est-ce qu'ils ont encore plus peur de Mélenchon, même s'ils ne l'avouent pas? Et vous avez vraiment, je suis désolé, 10 secondes. J'ai fait une question très longue et vous avez 10 secondes.
Y a une différence entre les caciques et les électeurs. Les caciques, ils vont faire du nini. Les électeurs, effectivement, ils vont être écartelés. Et dans l'état actuel des choses, c'est quand même plutôt un basculement des centristes vers le RN que vers la gauche, de manière globale et je vous dis ça de manière très schématique.
Merci beaucoup Guillaume Bernard, merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous pour cette émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Retrouvez Marc Baudrier et Boulevard Voltaire demain pour le Restons Courtois du vendredi. Moi je vous retrouve jeudi prochain, à très bientôt.
Ça suffit maintenant.